Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, ce qui revient à peu près à lire The Economist tout en soufflant dans une langue de belle-mère. 2 heures d'informations rigoureuses, une touche de fantaisie en plus, en compagnie de vrais professionnels de la radio. Comme Céline Dacosta et Jérôme Lacroix, de vieux briscards des ondes, qui connaissent tout le jargon de notre métier. Par exemple, en radio, on ne dit pas à un collègue « Attention, après ta dernière phrase, je donne l'heure », mais cette expression un peu énigmatique « Attention, pied pendule ». Moi-même, au début, ça me faisait tout drôle d'entendre Céline et Jérôme. J'ai fini par m'habituer à ce drôle de langage. Le problème, c'est qu'on croit connaître une expression et qu'à l'instar des Varocs, ben, en fait, on ne maîtrise pas encore tout à fait le jargon.
Je sais que tu me regardes plus, mais...
Oui, il y a un pied après.
Ah, ça sent le pied bouche, là.
Ne dites pas n'importe quoi. Ce qui ne sent pas du tout le pied bouche, enfin, on l'espère, c'est l'admirable rubrique histoire de notre matinale. Ce matin, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, Fabrice Dalméda revient sur ses interventions présidentielles télévisées qui ont marqué la 5e République.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le mardi 11 décembre. Et il est 6h. Très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 11 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. À la une ce matin, Céline.
À la une, l'exercice périlleux d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a décrété un état d'urgence économique et sociale pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Dans ce journal, nous reviendrons sur les mesures concrètes annoncées. Le principal syndicat lycéen Lunel appelle à une journée noire. Dans les établissements, nous serons à Mantes-la-Jolie où la semaine dernière, 150 jeunes ont été arrêtés. Et puis l'épreuve du feu, c'est le titre du journal L'Équipe. Ce matin, Ligue des Champions, le PSG se déplace à Belgrade. Il a donc eu 13 minutes pour convaincre, 13 minutes pour tenter de mettre un terme au mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a tenu le discours le plus crucial depuis le début de son quinquennat hier soir. Le chef de l'État a décrété un état d'urgence économique et sociale et annoncé des mesures concrètes. Les détails avec Anne-Laure Jumet.
La première réponse apportée par Emmanuel Macron, c'est de mieux rémunérer le travail. Les salariés au SMIC verront ainsi la prime d'activité augmenter plus vite que prévu, ce qui conduira à une augmentation de leurs revenus de 100 euros par mois. Ce sera fait le plus tôt possible, au plus tard en avril, précise-t-on à l'Élysée. Il y a aussi le retour du travailler plus pour gagner plus, théorisé par Nicolas Sarkozy. Les heures supplémentaires ne seront plus imposables dès le mois d'avril, en plus de la suppression déjà actée des charges. Et puis, les entreprises sont appelées à verser des primes qui seront défiscalisées. Voilà pour les salariés. La deuxième réponse porte sur les retraités particulièrement pénalisés depuis le début du quinquennat. Ceux qui gagnent moins de 2000 euros par mois seront finalement épargnés l'an prochain par la hausse de la CSG. Jusque-là, le seuil a été fixé à 1200 euros par mois. Emmanuel Macron a concédé que pour les retraités, l'effort qui avait été demandé était trop important et n'était pas juste.
Alors, on l'a entendu dans le sujet d'Anne-Laure Jumet, les retraités qui touchent moins de 2000 euros par mois vont être épargnés en 2019 par la hausse de la CSG. Jacqueline est dans ce cas-là, elle a 65 ans, touche 1800 euros de retraite. L'annonce du chef de l'État est plutôt positive, enfin presque.
Je gagne à peu près un plein par mois. Ça m'apporte un petit peu plus parce que bon, j'ai des petits-enfants, ça va me permettre de faire un petit peu plus de dépenses pour les gâter. Ça m'a fait plaisir. C'est ce que j'attendais un petit peu, quoi. Parce que je trouvais que c'était un petit peu injuste, cette hausse de la CSG. Mais par contre, il n'a pas trop revalorisé nos retraites. Ça va faire 6 ans que je suis à la retraite. Bon, elle n'a pas bougé, ma retraite. Voilà, on règle notre budget par rapport à ça, quoi. C'est un petit peu le point négatif de l'intervention de M. Macron.
Jacqueline, jointe par Romain Noquet pour Europe 1.
Et Céline, toute la question est maintenant de savoir si le mouvement des Gilets jaunes va s'essouffler. Beaucoup d'entre eux parlent de mesurettes.
Oui, des mesures qui vont tout de même coûter entre 8 et 10 milliards d'euros, chiffre avancé par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Parmi les réactions dans l'opposition, le compte n'y est pas pour Benoît Hamon. Yannick Jadot souligne un changement de ton, mais pas de fond. Pour Éric Ciotti, le chef de l'État ne donne que des miettes aux Français en colère. Le numéro d'acteur ne suffira pas, écrit-il sur Twitter.
Emmanuel Macron qui va recevoir aujourd'hui et demain les représentants des banques et des grandes entreprises.
Le président va leur demander de participer à l'effort collectif en discutant notamment d'efforts fiscaux. Un chiffre ce matin, 4523, c'est le nombre de personnes interpellées sur tout le territoire depuis le 17 novembre. Parmi les personnes arrêtées, c'est 150 lycéens de Mantes-la-Jolie dont la vidéo a fait le tour du monde, agenouillés, main derrière la tête. La situation sur place est toujours très tendue alors que le principal syndicat de lycéens, Lunel, appelle un mardi noir. Justin Morin s'est rendu sur place pour Europe 1.
Ils le sentent en discutant entre eux, en lisant les messages de revanche sur les réseaux sociaux. Les images des interpellations ont laissé des traces, Ayoub résume.
Un jour ou l'autre, ça va péter, ça va casser en gros.
La semaine dernière, l'appel au blocage avait été largement relayé sur les réseaux sociaux. Pas cette fois, selon Karim, qui veut parler au nom des interpellés. Mais appel ou pas, il insiste.
Personne n'est content. On a tous envie de se venger en quelque sorte. Parce que les forces de l'ordre, ils peuvent se permettre de faire ça. Parce qu'ils savent très bien que la plupart des élèves, c'est des gens de banlieue. Que ça serait dans l'établissement Henri IV ou dans le 16e, ils n'auraient jamais le courage de faire ça. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des fils de ministres. C'est l'injustice.
Son ami Mamadou, dégoûté, affirme avoir assisté à toute la scène. Les poubelles, les voitures en feu, puis ces arrestations humiliantes, dit-il, qui pourraient les pousser à réagir.
Si on veut leur montrer que malgré ce qu'ils nous ont fait, on est encore là. Vous savez ce qui est l'effet de groupe, ce que c'est. Quand on est tous ensemble, il y a un effet de groupe qui nous vient et on perd toute morale, toute limite. Et ça peut dégénérer très vite.
Les propos de ces lycéens sont souvent provoquant, parfois surjoué, mais il l'affirme, il suffirait d'un simple feu de poubelle pour que la situation dérape. À Mantes-la-Jolie, Justin Morin, Europe 1.
Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a adopté cette nuit le projet de loi qui permet au gouvernement de se prémunir via de futures ordonnances de toute forme que prendrait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Brexit qui se trouve dans l'impasse, Theresa May a reporté le vote sur l'accord. Elle n'a pas réussi à convaincre au sein de la majorité.
Europe 1, il est 6h05.
Un monument à partir de ce soir sur la scène du théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris.
Oui, Jean-Louis Trintignant, qui fête aujourd'hui son anniversaire, va réciter les poèmes qu'il a lui-même choisis. Il sera entouré de quelques musiciens. Thierry Geffrotin l'a rencontré.
Il a 88 ans aujourd'hui même. Il est aveugle et pourtant par amour pour la poésie, Jean-Louis Trintignant remonte sur scène.
Je trouve que la poésie, c'est peut-être la forme d'expression qui me touche le plus que les romans. Souvent, en une page, on dit des choses tellement profondes et graves qu'on n'a pas besoin de tant de mots.
Mon petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune.
Il y a Apollinaire, il y a Prévert, Desnos, Brésien. Il y a les trois quarts que je ne connaissais pas, que j'ai appris. Je suis aveugle. Alors c'est la raison, c'est une mauvaise raison. Mais c'est un plus gros travail, mais j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai fait rien d'autre.
Au total, près de 20 poèmes. Et aux côtés de Jean-Louis Trintignant, pour prolonger la poésie, un tout petit orchestre qui joue du Astor Piazzolla.
Jean-Louis Trintignant, donc, à voir sur la scène du théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris jusqu'au 22 décembre. 21h ce soir, le Paris Saint-Germain affronte l'Étoile Rouge de Belgrade pour une qualification 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG qui sera opposé au club de Pontivy en 32e de finale de la Coupe de France. Ainsi, on a décidé le tirage au sort.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, dont j'avais envie ce matin d'embrasser le papa. Un homme de goût qui, me confie Céline, nous écoute chaque matin. Alors vous me direz, c'est quand même se réjouir de peu, si même nos propres parents ne nous écoutaient pas, ça serait vraiment à désespérer de tout. Ah bah vous savez, ici, tout est possible, prenez les rocs.
Ils écoutent tes parents ? Moi, ils se lèvent trop tard.
Pardon. C'est pas ce que m'a dit Gisèle en plus. Moi, elle m'a dit qu'elle était debout à 5h30, mais qu'elle écoutait RFI. Mais enfin bon, pas semer la zizanie chez les rocs.
Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, Fabrice Almeida revient sur ses interventions présidentielles télévisées qui ont marqué la 5ème République.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce mardi avec vous, Céline Dacosta, de la grisaille encore
ce matin. Oui, ce matin, et ça pour presque tout le monde. Là où il restera du soleil, c'est sur les Pyrénées, près de la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Il va revenir également timidement cet après-midi à peu près partout, souvent sous un ciel voilé, et il sera un petit peu plus présent sur la partie ouest, surtout le sud-ouest. Les températures, elles baissent encore un petit peu, avec une moyenne de 0 à 10 degrés. Ça, c'est pour ce matin, 5 à 16 degrés du nord au sud pour cet après-midi.
Merci Céline. Baroque.
Alors aujourd'hui est mis en vente un nouveau timbre à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on vous a demandé sur Twitter avec le hashtag Europe 1 si vous pouviez vous choisir une personnalité ou un événement qui méritait un timbre, ce serait lequel ? Et bien alors Amor nous dit une photo de Nikos Aliagas parce qu'il trouve que c'est assez raccord.
Il a le profil
avec
grec.
La Déclaration. Exactement. Non, une photo que a prise Nikos Aliagas, pas une photo de lui. Évidemment. Beaucoup nous ont répondu Wilson Mandela, évidemment. Et puis Romarix nous dit mon avis d'imposition et j'utiliserai pour toutes mes correspondances avec un service public.
Vous avez dit Wilson Mandela ?
Nelson.
Oui, Nelson plutôt, parce que Wilson Mandela est moins connu.
Je pensais en plus à ça. Enfin bon. Voilà. Et Romaric, vous avez entendu ma vanne ? Non, vous ne l'avez pas écouté. Tant pis.
Non, j'étais resté sur Wilson Mandela.
C'est trop tard.
On la réécoutera demain. Promis, Eva.
Allez-y.
On la dissèquera demain, cette excellente vanne. Merci Eva, merci chers auditeurs. Ah oui, dès qu'il entre dans le studio, le pouls de Céline Dacosta s'accélère, c'est vrai. C'est vrai. Comme tous les sportifs, il voit grand pour leur amour. C'est pourquoi elle ne le sait pas encore, mais pour leur mariage, il a réservé un lieu exceptionnel.
Oui, ce sera à Évreux, au Palais des Congrès d'Évreux.
Oui, wow. Cerise sur le gâteau, wow, wow, wow. En présence de tous les comédiens de Navarro encore vivants. C'est Bain-Marie lui-même qui portera l'alliance. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports.
On attend du monde, ouais.
À la une du JDS, Jérôme, une invitation pour la table des grands.
Celle dont rêvent les footballeurs du Paris Saint-Germain. Ils visent ce soir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le top 16 européen. Alors pour être sûr d'en être, ils ont besoin d'une victoire qu'ils doivent aller chercher en Serbie, dans le stade bouillonnant de l'Étoile Rouge de Belgrade, surnommé le Maracana. 53 000 places, les Serbes n'y ont plus perdu depuis plus d'un an. 32 rencontres d'affilée. Ce soir, côté Paris, Neymar devrait être là, semble-t-il, remis d'une récente blessure à une cuisse, argument de poids pour son compère de l'attaque, Kylian Mbappé. Les deux hommes s'entendent de mieux en mieux.
Voilà, on se connaît beaucoup plus aussi. Chaque équipe qui a un joueur de cette qualité, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui en ont un. C'est un avantage énorme pour nous, malgré le fait qu'il ne se soit pas entraîné beaucoup, mais pour ce genre de joueur, ce n'est pas un problème. Il sera là demain et va démontrer la qualité qu'il a pour nous aider à gagner.
Propos recueillis hier par Julien Froment, Belgrade PSG. Ce soir, donc, si Paris gagne, qualification pour les huitièmes acquise. Possible aussi en cas de nul ou de défaite, mais il faudra alors observer le résultat de l'autre match du soir qui se déroulera en même temps entre Liverpool et Naples. Coup d'envoi de ces rencontres, 21h, même horaire pour Monaco-Dortmund, mais c'est pour du beurre, les Monégasques sont éliminés.
La Ligue des Champions ce soir donc, et début janvier, ce sera le grand écart pour les Parisiens.
Pontivy dans le Morbihan, 5e division pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a accouché hier de cette affiche déséquilibrée, mais c'est toujours savoureux. Et les amateurs bretons sont ravis d'ailleurs, on les voit par exemple à la une ce matin du Télégramme. Parmi les autres affiches, une seule rencontre entre clubs de Ligue 1, ce sera Toulouse-Nice. Dans ce journal de tous les sports, on suit aussi, Mathieu, le parcours des Bleus au Mondial de hockey sur gazon en Inde.
J'espère bien.
Finale. Et oui, ils le chantent parce que oui, ils sont en quart de finale du Mondial.
Mais
après
ça ne m'avait
pas
échappé.
Après une victoire hier, 1-0 sur les Chinois. Jamais ils n'étaient allés aussi loin en Coupe du Monde. Alors pour rallier une demi-finale, le dernier carré, ce sera beaucoup plus compliqué. Demain, il faudrait battre les Australiens qui sont double champions du monde.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Cette enquête de 10 mois d'un cabinet d'avocats qui accable le comité olympique des États-Unis. De hauts responsables y sont accusés d'avoir cherché à étouffer le scandale des agissements du docteur Larry Nassar, médecin de l'équipe de gym féminine, condamné en début d'année à perpétuité pour des abus sexuels sur plus de 250 athlètes. Les enquêteurs écrivent que le coupable a agi, je cite, « au sein d'un vase clos qui a facilité ses actes criminels ».
C'était le Journal des Sports. Merci Jérôme Lacroix. Et comme je sais que vous avez prévu de vous voir après l'émission avec Céline, je vous souhaite bien du plaisir.
Ah, ça sent le pied-bouche là.
Mais non, mais ils prennent juste un verre en face, enfin. Passons. Mais ah, regardez, qui voilà GG. Mais oui, il est là ce matin, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Fabrice Dalméda revient sur ses interventions télévisées présidentielles qui ont marqué la 5ème République.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Reprenons-nous.
Non, mais il faudra que j'explique quand même mon histoire de pied-bouche.
Non,
parce que là,
c'est pas le moment, pas dans la chronique histoire de Fabrice Dalméda. Vous l'expliquerez demain à 5h. Hier, le président de la République est donc intervenu à la télévision. Les amis, son apparition était présentée comme un tournant dans son quinquennat. Et les apparitions médiatiques décisives sous la 5ème République, c'est une habitude.
Oui, tous les présidents l'ont fait. Et cela a commencé avec De Gaulle. Le 30 mai 1968, en pleine crise sociale, le président parle à la radio. Et cela change tout. Que dit-il ? Qu'il ne partira pas et il relance le processus démocratique en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections. De Gaulle obtient un vote massif pour son parti aux législatives, mais un an après, il perd son référendum et part.
Emmanuel Macron, lui, n'a pas choisi cette stratégie.
Non, son choix fait davantage penser à la tactique de François Mitterrand. Mitterrand contourne. Il change de cap, mais veut faire croire que rien n'a changé. Comme lors de son intervention télévisée du 23 mai 1983, quand il justifie le tournant de la rigueur, je cite « Ce que j'attends du gouvernement, ce n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise, adaptée à la rigueur
c'est
des temps.
C'est retors, ça.
Voilà, en somme, c'est la situation qui a changé, pas sa politique. Macron fait de même en soulignant qu'il ne défait pas ce qui a été fait. Jacques Chirac a aussi fait pareil pour annoncer le retour à la rigueur budgétaire lors de son intervention du 26 octobre 1995 sur Antenne 2.
Mais est-ce que les électeurs les croient ?
Personne n'est dupe. Et déjà en 95, Chirac déclarait « Je n'ai pas été élu pour être populaire ». Il allait rompre la paix sociale, mais espérait que son courage serait salué. Emmanuel Macron prend en fait un risque symétrique. Il fait des concessions, adopte une posture modeste. L'avenir nous dira si le sacrifice de son ardeur sur l'autel de la paix sociale a permis de renouer le dialogue avec les Français.
Merci beaucoup Fabrice, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant
6h15. Avec joie.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative, mais pour faire le tour de l'actu avec ceux qui la font, à 6h20, avec la fondatrice du site senioravotreservice.com, on se penchera sur ce phénomène de société. Pour préserver leur pouvoir d'achat ou s'offrir simplement un complément de revenu, de plus en plus de retraités reprennent du service. On y vient, mais d'abord, comme le dit souvent Céline Dacosta à Monsieur Dacosta, dans l'intimité.
Can you feel it? Can you feel it?
Oui. Oui, je le sens, Céline. C'est l'heure du grand jeu de la fausse pub Europe 1. Pensez donc. Je reconnaîtrai ce moment entre mille.
Oui. Il est 6h19. L'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Une allocution de 13 minutes pour répondre à la crise des gilets jaunes. Hier soir, Emmanuel Macron a déployé une série de mesures. Heures supplémentaires défiscalisées, baisse de la CSG des retraités, hausse de la prime d'activité en 2019. Le président de la République a décrété un état d'urgence économique et sociale. Dans l'actualité également, le syndicat lycéen UNLSD appelle les élèves à se mobiliser aujourd'hui par des blocages et des occupations, promettant un mardi noir au gouvernement. Enfin, du football, l'heure de vérité pour le PSG qui affronte ce soir l'Étoile Rouge de Belgrade à 21h en Ligue des Champions. Une victoire et Paris sera qualifié pour les huitièmes de finale.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 11 décembre 2018. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi ce phénomène de société qu'ils cherchent à préserver leur pouvoir d'achat ou qu'ils souhaitent s'offrir tout simplement un complément de revenu pour réaliser des projets. De plus en plus de retraités reprennent du service. Valérie Gruau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondatrice du site Senior à votre service, premier site d'emploi des seniors en France. On fête cette année les 10 ans de la loi autorisant les salariés à travailler jusqu'à 70 ans. La part des 65-69 ans qui travaillent est passée de 2% à 7% depuis 2006. Ça, c'est quelque chose que vous avez perçu, j'imagine, via votre site.
Alors exactement, d'autant que Senior à votre service a également 10 ans en fait cette année, donc on a un bon recul.
Joyeux anniversaire.
Merci. Et en fait, pour vous donner un chiffre qui correspond, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 000 candidats seniors qui sont inscrits sur Senior à votre service. En 2015, donc il y a seulement 3 ans, on en avait 130 000. Oui. Donc, il y a 70 000 candidats supplémentaires qui se sont inscrits ces 3 dernières années, donc ça correspond bien à ces chiffres.
Alors, la question du pouvoir d'achat chez les retraités est au cœur de la mobilisation des gilets jaunes, dont on parle beaucoup. Gagner plus, c'est la première motivation des seniors que vous employez ?
C'est clairement la première motivation d'inscription sur des sites d'emploi, c'est la raison économique. Donc, besoin de compléter une retraite qui peut être relativement faible, donc ça peut être une raison vraiment nécessaire, une nécessité économique. Et puis, pour d'autres, ça permet aussi de continuer à garder leur niveau de vie, tout simplement.
Est-ce que vous pensez parmi les choix d'Emmanuel Macron annoncés hier soir, notamment la baisse de la CSG pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros, est-ce que ça suffira à calmer la colère ou est-ce qu'il fallait aussi indexer les pensions de retraite sur l'inflation ?
Alors vous avez raison, il y avait deux revendications majeures qui étaient ces deux-là. Alors je pense que c'est déjà un premier pas, donc c'est une bonne chose en tout cas qu'il y ait une réponse qui soit apportée aux retraités. Ensuite on verra avec eux ce qu'ils, voilà, comment ils le vivent et s'ils pensent que c'est suffisant.
Mais c'est peut-être mauvais pour votre business ça. Ils vont moins avoir besoin de compléments de...
Alors, ceci dit, je ne pense pas que ça suffise à compenser complètement la différence de niveau de vie, puisqu'aujourd'hui, quand vous passez à la retraite, grosso modo, vous perdez 25% de votre rémunération en moyenne. Ça peut être beaucoup plus pour certains. Donc, il peut quand même y avoir une nécessité de retrouver une activité. Et puis, la raison économique n'est pas unique sur le retour à l'emploi. Ça peut être aussi pour certains la nécessité de conserver du lien social, de se sentir utile, actif.
Valérie Gruau, une double question pour vous. Qui sont les retraités qui recherchent un emploi via votre site ? Quel est leur profil ? Et surtout, quel profil intéresse les recruteurs ?
Alors, les profils, on va avoir essentiellement on peut avoir d'anciens artisans, commerçants, des agriculteurs ou des profils salariés, diplômés ou non diplômés. On a très peu de cadres, par contre, sur Senior à votre service. Et les recruteurs, ben, en fait, il y en a deux types. Soit ce sont des particuliers employeurs, c'est-à-dire vous ou moi qui avons besoin d'un petit coup de pouce à la maison pour faire garder nos enfants, aider un parent âgé, des petits travaux de bricolage. Donc, ça, c'est tout l'environnement du service à la personne. Et puis de l'autre, ce sont des entreprises. Alors, il y a deux grands types d'entreprises, soit des toutes petites TPE. donc qui ont besoin de quelqu'un à temps partiel, typiquement une secrétaire, un comptable, parce qu'elles n'ont pas besoin de plus, c'est des petites structures. Donc elles vont s'intéresser à ces profils retraités qui sont intéressés par des temps partiels. Et puis sur quelques grosses structures, plutôt dans la grande distribution, leur intérêt c'est de pouvoir harmoniser la pyramide des âges en fait. D'avoir dans leur rayon, par exemple en grande distrie, des vendeurs de différents âges pour répondre aux besoins de leurs clients.
D'accord.
Est-ce que ça veut dire que les entreprises elles sont plus à même aujourd'hui d'embaucher des seniors ? On a eu l'impression que pendant des années, elles étaient plutôt réticentes à ça.
Exactement. Vous avez raison. Pendant des années, il y avait quand même un frein sur l'emploi des seniors. Et on s'aperçoit aujourd'hui sur Senior Mode Service qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir nous voir pour recruter. Et comme je disais à l'instant, beaucoup de TPE, beaucoup de petites structures qui viennent chercher des personnes à temps partiel et qui sont immédiatement en fait opérationnelles.
Bah oui, parce que quelles sont les qualités qu'elles recherchent en fait sur ces seniors ? C'est quoi ? C'est l'expérience qu'elles ont acquise ?
Alors clairement, exactement, c'est l'expérience en priorité. Ce sont des personnes aussi qui sont flexibles dans leur organisation, puis ils n'ont plus les mêmes contraintes de vie que les plus jeunes, qui sont encore parents de jeunes enfants par exemple. Et puis ce sont des personnes aussi qui peuvent prendre du recul, qui peuvent transmettre et qui ont une motivation aussi reconnue. Parce qu'un retraité qui trouve un emploi, il va s'investir totalement dans sa mission parce qu'il sait que c'est compliqué de retrouver.
Est-ce que c'est un phénomène qui est à l'échelle nationale ou il y a des régions plus concernées que d'autres par
Alors, c'est clairement à l'échelle nationale parce que ce qu'on observe sur Senior Mode Service, c'est qu'on a que 27% des candidats qui sont en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on en a près de 70% en région. Donc essentiellement en PACA, en Rhône-Alpes, en Aquitaine, et puis après ça descend crescendo.
Mais plutôt dans des zones urbaines ?
Alors essentiellement sur les grosses métropoles.
D'accord. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à ce qui ressemble de prime abord évidemment à une belle initiative, que ça prive des jeunes ou des actifs de travail ?
Alors, on ne peut pas opposer le travail des jeunes avec le travail des seniors, en tout cas des retraités, parce qu'un retraité, comme je le disais tout à l'heure, il va chercher un emploi à temps partiel. Il ne cherche plus à travailler 5 jours par semaine comme un plus jeune, donc ils ne vont pas aller sur les mêmes types d'emplois en fait.
D'accord. Et est-ce que ça n'en dit pas long quand même ce phénomène ? Comme vous le présentez, c'est assez positif, mais ça n'en dit pas long sur la paupérisation des classes moyennes françaises, parce que si c'est juste un besoin de se sentir actif, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un des éléments.
Il y a
le bénévolat pour ouais. ça. Il n'y a pas besoin de chercher un salaire.
Souvent, les deux peuvent s'allier, en fait. C'est-à-dire, il y a cette nécessité d'avoir un complément de revenu qui peut s'allier, en fait, à ce besoin de se sentir utile, d'avoir du lien social. Et c'est en ça que souvent, on peut s'apercevoir que les retraités vont beaucoup sur des métiers de contact. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup métier du service à la personne, parce que quand vous occupez des enfants, par exemple à la sortie de l'école, une mamie nounou, elle va nous dire « Ok, j'ai gagné un complément de revenu et ça m'aide maintenant,
et en plus,
ça me fait plaisir et j'ai ce lien avec les enfants qui me rendent, etc. » Et voilà, ça peut être une raison.
Merci beaucoup Véronique Greux d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. On rappelle le nom de votre plateforme, senioravotreservice.com.
Merci à vous.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et l'hiver arrive.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta avec de la grisaille encore ce matin.
Oui, et ça quasiment partout, avec des brouillards parfois denses sur la moitié ouest. Encore un petit peu de neige sur les Vosges et le Jura, à partir de 300 mètres pour les Vosges, 600 mètres sur le Jura. Il reste du soleil là ce matin sur les Pyrénées, du Languedoc-Roussillon aux Alpes et sur la Corse. On a un petit peu de mistral également dans la vallée du Rhône, mais alors vraiment léger, 60 km à l'heure. Côté température, quelques gelées ce matin en Auvergne, dans le Limousin. Il fait moins 1 degré à Aurillac, 0 à Strasbourg, 2 à Bordeaux, à Nantes, 4 à Caen et Tours. Vous voyez, ça baisse, hein, 5 à Lyon et Biarritz, 7 à Nîmes, 9 à Perpignan et Brest, 10 à Toulon. Il en fait 5 également à Paris.
Oui, mais petite amélioration cet après-midi.
Oui, côté ciel, du mieux avec le retour du soleil, surtout sur la partie ouest du pays, sera souvent voilé. Puis on aura un petit peu plus de neige sur la pointe bretonne et celle du Cotentin, prémisse d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui va traverser la France demain. Je vais vous en parler dans un instant. Ce sera toujours dégagé près de la Méditerranée. Quant aux températures, elles baissent encore comme prévu, hein, 3 à 6 degrés en moyenne dans le nord-est, ça c'est les plus fraîches, 6 à 10 degrés sur la moitié nord et de 10 à 16 pour la moitié sud. Vous voulez une petite tendance pour les jours à venir ?
Oui, une petite tendance rapidement.
Avec demain, donc mercredi, cette perturbation pluvieuse dont je vous parlais qui va traverser la France d'ouest en est. On aura encore un petit peu de soleil cette fois-ci dans le nord-est, un petit peu de neige sur les reliefs. Pour jeudi, c'est tout le nord et nord-est qui sera sous un soleil voilé. La perturbation pluvieuse, elle, sera pour l'ouest et tout le sud de la France.
Merci Céline. Restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Mathieu Noël sur Europe 1. Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui d'une main vous informe et de l'autre vous chatouille malicieusement. Deux heures en compagnie de journalistes rigoureux avec, surtout, chevillé au corps, le respect de la langue française. Comme les Baroques nous l'a encore admirablement prouvé hier.
Ça devient en fait un lieu de contestation pour l'opposition qui s'en donne à cœur joie sur cette crise de l'oignon avec tous les jeux de mots possibles et inimaginaux.
Tous les mots possibles et inimaginaux ?
Oui.
Ah oui.
Pourquoi ?
Imaginable peut-être.
Imaginable ?
Si jamais les profs de français nous écoutent...
Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Inimaginable, c'est mieux. Ouais.
Bravo,
je dis ce que
Eva.
Je veux en fait.
On embrasse votre prof de français.
Tout le monde a compris de toute façon.
À suivre, politique, économie, médias, tous les thèmes inimaginaux sont dans la séquence des trois fantastiques. Au programme notamment ce matin, notre expert éco Axel de Tarlet décortiquera pour nous les quatre grandes annonces économiques d'Emmanuel Macron hier soir.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Tout cela suffira-t-il ? Emmanuel Macron déclare l'état d'urgence économique avec des mesures en faveur du pouvoir d'achat, mais sur les ronds-points, rien ne semble pouvoir calmer l'indignation. Reportage dès le début de ce journal. Parmi les gestes forts, le président promet 100 euros de revenus en plus chaque mois pour les travailleurs au SMIC. Vous entendrez la réaction de Force ouvrière. Et puis, nous mettrons le cap sur Bruxelles. Theresa May est dans l'ornière. Elle va essayer de renégocier avec les 27 sur le Brexit. Mais ils ont déjà prévenu qu'ils ne lâcheraient rien.
Europe 1.
100 euros de plus pour les travailleurs qui gagnent le SMIC, annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités qui touchent moins de 2000 euros, le retour des heures supplémentaires défiscalisées, tout cela devrait coûter à l'État jusqu'à 10 milliards d'euros dès l'année prochaine. Et pourtant, non loin du dépôt pétrolier de Lorient, les Gilets jaunes rejettent l'intervention du président de la République. Reportage François Coulon.
Sous la cahute du dépôt pétrolier, le message présidentiel a parfois du mal à passer.
Et l'ordre républicain.
13 minutes plus tard, revue de détail des avancées, bilan, le compte n'y est pas.
Si on nous donne 100 euros d'augmentation et que l'EDF, le gaz, les carburants et toutes les taxes augmentent, 100 euros c'est infime.
Pour les retraites, il va annuler le hausse de CSG, c'est-à-dire que ce qui existe déjà, ça va perdurer. Qu'ils remboursent la CSG, qu'ils annulent complètement.
Qu'à partir du moment où on ne parle pas d'assemblée citoyenne, tout le reste on s'en fout quoi.
Beaucoup de gilets jaunes ont purement et simplement été zappés ce soir, déplore Gisèle en invalidité.
Il a oublié les handicapés, les chômeurs, il a oublié tous ces gens qui sont vraiment en bas de l'échelle, qui n'ont rien. Moi, 348 euros par mois, j'ai pas assez pour vivre. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça.
Pour Habib, cuisinier, le mouvement peut pousser son avantage.
Il a un goût de trop peu. Moi, pour moi, il est en train de faiblir. Je pense qu'il faut pousser un petit peu plus et obtenir ce qu'on veut. Deux ou trois fois plus, samedi prochain, rebelote quoi.
Personne ici n'a le sentiment de faire de la surenchère. On est si mal depuis si longtemps, dit Madeleine, qu'il y a beaucoup à réparer. Lorient, François Coulon, Europe 1.
C'est comme si rien de ce que pourrait dire Emmanuel Macron n'avait d'impact sur les protestataires les plus remontés. Des appels à un acte 5 du mouvement avec des manifestations à Paris sont lancés sur les réseaux sociaux. À cet égard, Emmanuel Macron hier soir a dit qu'il avait donné pour consigne la plus grande fermeté et l'absence totale d'indulgence envers ceux qui ont fait ou auraient le projet de faire usage de la violence.
David, arrêtons-nous s'il vous plaît un instant sur cette mesure en faveur des salariés au SMIC.
Oui, il s'agit en réalité d'une accélération de l'augmentation de la prime d'activité. Emmanuel Macron avait pendant la campagne promis ces 100 euros de plus, mais à la fin du quinquennat en 2022, eh bien ce sera le cas dès 2019. Cela concerne aujourd'hui 2,66 millions de travailleurs qui touchent le SMIC ou un peu plus et qui bénéficie donc de cette prime d'activité. Et le nouveau leader de Force ouvrière, Yves Verrier, réagit à tout cela avec mesure, vous allez l'entendre. Il reconnaît que tout n'est pas à jeter dans ce qu'a annoncé Emmanuel Macron.
Ceux qui vont bénéficier du plus 100 euros sur le SMIC, les retraités qui vont voir annuler la hausse de la CSG, pour eux c'est effectivement un plus non négligeable, bien évidemment. Mais pour Force ouvrière, ce qui est au centre de la situation, c'est le pouvoir d'achat d'une manière plus générale. Et l'évolution, on ne la voit pas venir. Donc ça ne répond pas exactement à la revendication qui est la nôtre.
Par ailleurs, le fait de supprimer la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros par mois, là c'est quelque chose que vous attendiez, vous.
Ça, évidemment, c'est bienvenu. Cela étant, n'oublions pas que la revalorisation des pensions est limitée à 0,3 et que c'est loin de répondre à la hausse du coût de la vie pour ces mêmes retraités. Donc le pouvoir d'achat des retraités n'augmente pas comme il le devrait.
Yves Verrier, le nouveau leader de Force ouvrière, avec Olivier Samin pour Europe 1. Le président de la République s'est par ailleurs hier soir plié à l'exercice du mea culpa. Je sais qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos, a-t-il reconnu en référence aux phrases polémiques prononcées ces derniers mois. Mais revenons sur le terrain économique. On le sait, la crise des Gilets jaunes a un impact catastrophique sur le commerce. Zoomons sur le département de la Loire. De nombreux magasins ont été dégradés. Jean-Luc Bougeon, vous êtes notre correspondant dans la région. L'économie de ce département est particulièrement touchée, Jean-Luc ?
Oui, effectivement, le constat est alarmant. Quasiment aucune PME de la Loire n'échappe à la chute d'activité. Commerce, hôtellerie, restauration, logistique, et souvent dans des proportions importantes, explique Daniel Villarreal, patron de la CPME locale.
C'est 20-30%, mais pour une grande partie, c'est 80-90%, voire 100% pour des entreprises qui sont complètement à l'arrêt. On commence déjà à voir les premières mesures de licenciement.
C'est pour cela que le préfet de la Loire, Evance Richard, a rappelé hier que l'État était aux côtés des commerçants, artisans et petits patrons.
C'est surtout de montrer aux entreprises en difficulté que les administrations sont à leur écoute, sont à leur disposition, de façon à répondre vite, avec évidemment la bienveillance nécessaire compte tenu du contexte.
Exemple d'un dispositif d'aide, l'État peut aider financièrement les patrons en difficulté à payer leurs salariés, détaille Alain Fouquet de la Direction du Travail et de l'Emploi.
C'est le dispositif d'activité partielle. C'est une compensation. L'employeur rémunère le salarié alors que le salarié n'est pas en activité et l'État compense une partie de la rémunération auprès de l'employeur.
Voilà, de leur côté, les banques de la Loire ont promis qu'elles seraient conciliantes avec les entreprises en difficulté à cause des gilets jaunes et la Chambre des métiers a annoncé le déblocage d'aides d'urgence utilisées en temps normal en cas de calamité naturelle.
Merci Jean-Luc Bougeon pour ces informations. Emmanuel Macron a aussi lancé hier soir un appel aux grandes entreprises et aux banques. Il en recevra aujourd'hui et demain les représentants à l'Élysée. Le chef de l'État veut que les dirigeants payent leurs impôts en France. Il a déclaré avoir besoin de nos grands groupes et de nos concitoyens les plus fortunés pour aider la nation à réussir. Fin de citation. Et puis la mobilisation des lycéens se poursuit, mais avec moins de blocages hier que la semaine dernière. 120 lycées ont été concernés sur la journée de lundi, 40 totalement bloqués. Mais le syndicat, l'Union nationale des lycéens, appelle pour aujourd'hui, ce mardi, à un mardi noir.
À suivre dans ce journal, le chemin de croix de Theresa May continue. La première ministre britannique va devoir retourner à Bruxelles dans l'espoir de renégocier. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h36. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le Brexit. Theresa May semble aujourd'hui dans une situation désespérée.
Oui, cela s'apparente de plus en plus à un chemin de croix. La première ministre britannique a été contrainte de repousser le vote qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui à Westminster. Elle entame une tournée à La Haye, aux Pays-Bas. Elle ira ensuite à Berlin et sera à Bruxelles en fin de semaine. Tout cela dans l'espoir d'obtenir de nouvelles concessions, et notamment sur la question irlandaise. Seul moyen pour elle de ne pas se retrouver en minorité dans son pays. Sauf que les 27 n'ont plus l'intention de lâcher de lest sur quoi que ce soit. Les explications de notre spécialiste à Bruxelles, Isabelle Horry.
Les 27 ne veulent rien lâcher sur le fond. Ils sont juste prêts à faire des efforts sur la forme. C'est non pour rouvrir le dossier de la frontière irlandaise qui a été si difficile à boucler. C'est le point qui pourtant hérisse les députés britanniques. Mais comme les Européens veulent que l'accord soit adopté, ils vont faire un peu semblant. Le président du Conseil européen a carrément convoqué un sommet spécial Brexit jeudi. Donald Tusk est prêt à discuter pour faciliter la ratification à Londres. Les dirigeants européens vont recevoir Theresa May. Elle est à La Haye ce matin, à Berlin ce midi, à Bruxelles plus tard dans la journée. L'objectif de ce balai, c'est de préparer une déclaration qui accompagnera l'accord de divorce. Elle rappellera que la solution pour l'Irlande est une assurance en dernier ressort et que Londres et les 27 ont plusieurs années devant eux pour trouver mieux. Bref, rien de vraiment nouveau, mais des mots gentils pour adoucir la pilule. Suffisant pour convaincre à Londres ? Pas sûr. En parallèle, les 27 vont donc accélérer leurs préparatifs pour un Brexit dur, une sortie sans accord.
À Bruxelles, Isabelle Horry pour Europe 1. Alors Mathieu, maintenant une question que je vous pose directement. Est-ce que vous dites toute la vérité à votre médecin ?
Évidemment non.
Ah oui, ah ben vous êtes non, alors. Alors vous êtes comme 8 patients sur 10, selon une étude américaine. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout une bonne idée puisque cela n'aide pas à un diagnostic efficace. Les explications de Mélanie Gomez.
Lorsqu'on pose la question « Avez-vous déjà menti à votre docteur ?», la réponse est presque toujours oui. Et c'est même avec soulagement que les patients racontent leurs petits mensonges.
Quand ils me demandent si je bois, je dis pas tous les soirs. Une fois de temps en temps, deux fois par mois.
Et ils vous croient ?
Moyen.
Moi, je lui mens, mais on va dire, genre, j'accentue ma douleur. Pour vraiment qu'ils comprennent que j'ai mal et qu'ils fassent vraiment quelque chose.
Sur le poids, il me dit « Monte sur la balance. Combien ?» Donc j'enlève 2-3 kilos, puisqu'il vient pas regarder.
Alors le poids, justement, l'alcool, le tabac, ce sont les sujets de mensonges les plus fréquents. Et puis dans cette étude, on découvre aussi qui sont les plus menteurs, les plus jeunes, les femmes, mais aussi, et c'est plus embêtant, les plus malades. Heureusement, explique Bertrand Boruchot, généraliste à Sèvres, ceux-là, il les démasque assez vite.
L'exemple qui peut être le plus parlant, c'est surtout les patients diabétiques où on les surveille régulièrement par une hémoglobine glyquée pour vérifier si leur traitement est bien pris. Il y a des fois des patients qui reviennent avec une hémoglobine glyquée qui a non seulement pas diminué, mais des fois a pu augmenter. Ils nous disent oui, j'ai bien pris mon traitement. Après, en grattant un petit peu, on arrive à comprendre que le traitement a été pris, oui, mais pas forcément tous les jours.
Enfin, tous les médecins le disent, mieux vaut un patient qui avoue ne pas avoir été très sérieux avec ses médicaments. Franchement, ça, ils ont l'habitude, plutôt qu'un patient chronique qui ment, mais risque de graves complications.
Information signée Mélanie Gomez pour Europe 1.
C'était le journal de David Doucan. David, un professionnel qui brille par son perfectionnisme. Alors oui, qui dit perfectionnisme dit aussi parfois, c'est vrai, caprice de star. Mais je pose la question ouvertement. Maria Carré accepterait-elle de monter sur scène sans qu'on lui ait préalablement servi son verre d'eau ? Non. Alors pourquoi Doucan devrait-il présenter son journal dans des conditions si déplorables ?
Maîtrise de l'actu, écriture, narration... J'ai soif, personne pour m'apporter un verre d'eau.
Je voulais chercher un verre d'eau, mais la fontaine là ne fonctionne pas.
Ouais, je suis en furie aujourd'hui.
Tout est cassé ici. Que son Altesse en soit persuadée, je témoignerai en sa faveur au prud'homme. On passe
merci
à la météo, David. Céline, quel temps pour la France aujourd'hui ?
Eh bien, encore du soleil près de la Méditerranée. On commence par les bonnes nouvelles et ça toute la journée avec un petit peu de mistral. Soleil qui brillera aussi sur les Pyrénées et les Alpes. Pour les autres, la journée commence sous la grisaille, mais le soleil reviendra cet après-midi, surtout sur la moitié ouest, hein, le sud-ouest particulièrement, et souvent sous un ciel voilé. Les températures, elles baissent encore un petit peu. On attend 5 degrés à Nancy cet après-midi, 6 degrés du côté de Saint-Étienne, 8 à Paris, 10 à Brest et Tarbes, 13 à Biarritz, 15 à Toulon et 16 la maximale qui est pour Ajaccio.
Merci Céline.
Europe 1. Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, le plus à cheval sur la précision de toute la bande FM. Une précision métronomique qu'on doit avant tout à Céline Dacosta.
Europe 1, il est 6h35. Enfin, 36.
À suivre, politique, économie, médias. Prenez l'actu de vitesse avec l'analyse des trois fantastiques. En quoi le discours d'Emmanuel Macron hier soir représente-t-il un tournant majeur dans le quinquennat ? Que vont changer pour vous les quatre grandes mesures économiques annoncées hier soir par le président ? Nos experts vous disent tout.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en mission pour éviter un acte 5 du mouvement des Gilets jaunes. Le président a annoncé plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le Premier ministre va les détailler aujourd'hui à l'Assemblée. Il va falloir convaincre, puisque sur les barrages, les Gilets jaunes appellent toujours à se mobiliser samedi. Emmanuel Macron a pourtant annoncé pas mal de choses. Hier soir, 100 euros de plus pour les travailleurs qui gagnent le SMIC, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros et le retour des heures supplémentaires défiscalisées. Enfin, Theresa May commence aujourd'hui une tournée européenne. La Première ministre britannique joue sa dernière carte. Elle a été contrainte de repousser le vote de son Parlement qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Elle va maintenant essayer d'obtenir de nouvelles concessions auprès de l'Europe, sans grande chance de succès.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h44, l'heure d'accueillir ces aventuriers du news. Ces éditorialistes intrépides qu'on appelle les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Et cette séquence, j'ai beau savoir qu'elle arrive chaque matin vers 7h moins le quart. C'est comme une reprise de Michael Jackson par Céline Dacosta.
Can you feel it? Can you feel it?
On ne s'y fait jamais vraiment totalement. C'est à chaque fois la même émotion. Et au lendemain de l'intervention présidentielle, Mickaël, on commence évidemment par vous et l'actu politique. On a suivi les annonces et le discours du président. C'est un tournant dans la politique menée. Qu'est-ce qui a changé ?
Écoutez, selon un expert de la vie politique, Emmanuel Macron a pris le canadair de la dépense publique pour éteindre l'incendie social et fiscal. Une dizaine de milliards lâchés en 13 minutes. C'est dire s'il y avait urgence, parce que l'économie, effectivement, est très affaiblie en raison des manifestations liées au mouvement des Gilets jaunes et parce qu'il fallait aussi envoyer un message à l'opinion qui les soutient. Un autre tournant a été pris, bien celui de contredire ses ministres de plein fouet. La ministre du Travail disait « pas touche au SMIC, il est boosté ». Marlène Schiappa disait « bon, je suis prête à rétablir les SF, question d'y toucher. Et Bruno Le Maire, qui s'est déclaré opposé à toucher à la CSG, devra défendre la décision présidentielle. Mais il a l'habitude, lui, de défendre des positions qu'il a pu combattre. Autre décision, continuer à brouiller à droite et s'inspirer de l'expérience de Nicolas Sarkozy sur les heures sup défiscalisées, un dispositif qui avait bien marché sous le quinquennat Sarko. Il faut savoir que l'ancien président et Emmanuel Macron ont déjeuné vendredi en tête-à-tête et cette mesure, très certainement, a fait partie du menu.
On verra quels effets sur le long terme ont ces annonces. En attendant, dans les ronds-points et sans se préoccuper des mobilisations vers la capitale, la vie s'organise.
Effectivement, et en attendant, hein, c'est toujours ces lieux qui sont en train de changer de statut. Ça reste des lieux de barrage, hein, pour discuter ou imposer des points de vue des Gilets jaunes, ce qui d'ailleurs pose des questions sur la liberté de circulation. Mais également, les ronds-points deviennent des lieux de socialisation. Les Gilets jaunes lient connaissance, organisent une vie micro-locale. Des retraités, des mères de famille seules sont très présents. Des sapins de Noël font leur apparition. Et on entend d'ailleurs beaucoup l'intention de partager le réveillon du 25 décembre. Bref, un zadisme d'un genre nouveau. On connaissait l'organisation en ZAD, zone à défendre, comme celle de Notre-Dame-des-Landes. Les ronds-points de la révolte viennent des ZAG, les zones à gilets.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. On passe à l'économie. Que retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le plan économique? Il y a eu plusieurs cadeaux faits aux salariés et aux retraités, Axel de Tarlet.
Voilà, quatre mesures très claires hier. Donc, on les a annoncées, mais je vais revenir dessus. Donc, première mesure très claire, la hausse du SMIC de 100 euros par mois, encore qu'on ne sait pas si c'est net ou brut.
Ah, ben voilà, j'allais vous dire, il y a un flou là-dessus.
Alors, je vais être optimiste, on va considérer que c'est net.
Ah bah...
Alors, si c'est net, ça fait une hausse de 8% quand même.
Vous vous engagez au nom du gouvernement.
Ah ben oui, non, mais j'essaie de pousser les feux. Hein. Ce serait la plus forte hausse depuis 2012. Alors, dans le détail, comment on gagne 100 euros de plus pour le SMIC? En fait, il faut savoir que de toute façon, le SMIC augmentait en net de 25 euros le 1er janvier. C'était la hausse naturelle du SMIC, donc il manque 75 euros. Et alors ces 75 euros, en fait, le gouvernement va donner une prime d'activité. Vous savez, c'est la fameuse prime pour l'emploi. Voilà comment on arrive à 100 euros de plus par mois. Deuxième mesure, donc pour les salariés qui sont au-dessus du SMIC, eh bien là, ils pourront faire des heures supplémentaires défiscalisées. Donc le salarié ne paye pas d'impôt sur les heures sup et le patron ne paye pas de charges sur ces heures sup. Donc elles sont très populaires. Il faut savoir que du temps de Nicolas Sarkozy, vous l'évoquiez, Michael, il y avait 9 millions de salariés qui en profitaient chaque année pour un gain moyen de 500 euros par an. Vous voyez, c'est pour ça que c'était très populaire et que ça a été très impopulaire quand François Hollande les a supprimés en 2012. Ensuite, il y a la prime défiscalisée. Donc ça, c'est pour les patrons qui le peuvent. Les entreprises riches peuvent donner une prime à leurs salariés. Et enfin, pour les retraités, le président donc annule la hausse de la CSG de 1,7% pour les retraités qui gagnent entre 1200 et 2000 euros par mois pour une personne seule, ça représente un gain d'environ 300, 400, 500 euros par an. Vous voyez, à chaque fois quand même, ce sont des gains qui se chiffrent en plusieurs centaines d'euros, c'est pas rien, hein, pour tous les Français.
Et le problème, c'est que toutes ces mesures ont un coût, Axel. Qui va payer?
Alors voilà, qui va payer? Donc là, Michael l'a dit, la facture, vous avez dit beaucoup de choses, hein, Michael. Hein, donc la facture est de trop. 10 milliards.
Ils s'envoient des fleurs entre eux.
Ben, non, mais du coup, j'ai du mal à compléter.
Ça reproche. Ouais.
La facture de ces annonces d'hier est de 10 milliards d'euros, donc un canadair d'aide sociale, hein, pour reprendre votre expression. Il y avait déjà eu 4 milliards d'abandonnés avec le renoncement aux taxes sur les carburants. Donc qui va payer? Bah, mystère. Le président a été très vague. Il a évoqué, lutter contre, je cite, les avantages indus de l'évasion fiscale. Alors peut-être que ça va être la taxe GAFA. On dit qu'on va lutter aussi contre, vous savez, les 4 subs dans les grandes entreprises qui essayent de payer leurs impôts à l'étranger. Enfin, c'est pas très clair. On peut aussi laisser filer les déficits. Donc là, ce seraient nos enfants qui payeront. Ou alors, il y a une piste un peu plus technique, c'est qu'on renonce à changer le CICE en baisse de charge. C'est assez technique, mais si le gouvernement repousse cette bascule, ça lui permettrait de dégager 20 milliards d'euros. Mais je dois avouer, on n'en sait rien à ce stade. Au fond, on est dans la grande tradition des présidents français qui jouent au Père Noël et qui distribuent des cadeaux sans jamais dire d'où vient l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la magie de Noël. C'est le monde merveilleux du Père Noël.
Petit papa,
je voyais ce son chargé dans la machine. Je me demandais qui a prévu ce son. Ce n'est pas moi. Et c'est vous, Axel de Tarlet, qui mettez des sons dans vos chroniques.
Vous m'influencez.
C'est un bon début, petit Papa Noël. Très bien joué, Axel. Merci beaucoup pour ces informations. Et Varoc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? La vie continue finalement.
Oui, et bien vous allez voir, c'est en rapport évidemment avec la crise en question parce qu'on va parler écologie. Alors que la COP24 se poursuit en Pologne, France 2 propose une grande soirée sur le thème de l'écologie. Alors pour débuter, un magazine intitulé Au cœur des éléments, animé par Chloé Nabédian, qui est présentatrice météo, et Olivier Mind. Tempête, ouragan, grêle, comment se forment ces épisodes météo, comment s'en protéger? L'émission, elle est rythmée par des reportages façon C'est pas sorcier, des témoignages de personnes qui ont vécu ces événements et par une expérience absolument incroyable. Olivier Mine accompagne une famille, un couple et deux enfants dans une maison le temps d'une soirée. À l'extérieur, imaginez des turbines ultra puissantes, un arrosage intensif et autres effets spéciaux qui vont plonger cette famille au cœur d'une tempête réellement, avec l'objectif qui est d'observer les réactions et de donner par ailleurs des conseils. Une excellente idée avec son lot de stress pour les habitants quand la tempête sont proches.
L'orage vient d'éclater.
C'est de plus en plus pire.
Ah ouais ?
Là, faut pas sortir.
Là, faut pas sortir.
Non, c'est dangereux. Sors pas quand il y a de l'orage. En plus, il y a des arbres.
Alors, et tu penses que les arbres, ça aggrave ?
C'est porteur de foudre. Enfin,
c'est
ça attire la foudre.
C'est vrai que c'est généralement ce qu'on dit.
Moi, je sais qu'il faut pas se mettre sous les arbres, que quand t'es en voiture, faut rester en voiture.
Mieux vaut rester dans la
foudre,
maison.
La foudre, ça passe par les prises.
Et puis de s'éviter de se mettre devant les fenêtres.
Alors vous le verrez, un pompier et un expert en météorologie leur donnent des conseils, lui dit qu'Informatif, cette émission originale, mérite vraiment l'attention, tout autant que le documentaire qui est diffusé à la suite, qui s'appelle « Après demain ». C'est un bilan, en demi-teinte d'ailleurs, des expériences que le réalisateur Cyril Dion et l'actrice Mélanie Laurent avaient mis en avant dans le film « Demain » qui était sorti au cinéma en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Et bien cette suite, elle fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle, elle donne de nouveau des pistes de réflexion quant à la transition écologique, et je voulais vous faire écoutez ce que dit une des personnes interviewées, un certain Nicolas Hulot, il était encore ministre de l'Environnement.
Il n'y a pas un million de gens qui descendent dans la rue pour demander qu'on mange bio. Il n'y a pas un million de gens qui descendent dans la rue pour dire arrêtez avec les énergies fossiles ou mettez-nous une taxe sur les transactions financières. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des millions de gens qui, individuellement, aspirent à ça. Donc la question centrale, c'est pourquoi ou comment on fait en sorte à un moment ou à un autre que cette expression, cette lame de fond citoyenne, elle puisse guider, impacter, influer, orienter, légitimer l'audace politique.
Michael Darmon.
Michael Darmon hoche la tête.
Oui, j'ai juste une idée, peut-être en démissionnant pas.
Je vous laisse juge. Ces propos font encore écho à l'actualité. Alors, au cœur des éléments et après-demain, c'est les deux rendez-vous du soir à ne pas manquer sur France 2. De l'information sans catastrophisme et surtout sans effet culpabilisant pour les téléspectateurs, c'est pas mal.
Merci beaucoup Eva Roque, merci Mickaël Darmon, Axel de Tarlé. Les trois fantastiques seront de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Eva, pour conclure, une phrase vraiment invraisemblable, limite stratosphérique.
Non, j'ai fait de plus grandes études que Simone de Beauvoir, mais oui, fallait que je vous le dise.
Si j'étais une boule de vie, je dirais que de tous les scénarios possibles et inimaginables, comme vous dites.
Possible, inimaginons.
C'était de loin le plus inattendu.
Europe 1. Il est 6h53, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt fini.
Goodbye, my lover.
Mais est-ce pour autant une raison d'écouter James Blunt en ouvrant le gaz? Je ne le crois pas.
Oh,
en effet, non. En effet, je vous rappelle que l'émission phare d'Europe 1 arrive dans quelques instants, portée par le plus célèbre animateur d'Europe 1, Eva.
Ah, Christophe Ondelat.
Oh, la boulette. Vite, envoyez la pub.
Et deux fausses pubs se cachent sur Europe 1. Soyez très attentifs. À tout moment, si vous entendez une fausse publicité, tentez votre chance en envoyant pub par SMS au 7 39 21. 75 centimes plus le coût du SMS, 3 SMS pour jouer. Ou alors vous appelez le 39 21, c'est 50 centimes la minute. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez le tout nouveau MacBook Air. Bonne chance. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, ce qui en chagrine certains, mais en réjouit d'autres.
Caramba.
Et oui, bon bah Nico Saliagas, ne vous réjouissez pas trop vite. Avant de vous céder la place pour votre matinale, il vous reste à vous fader le débrief de celle d'hier. Et là tout de suite, moins caramba. Hein. Qu'est-ce que vous faites?
Je vais passer un petit coup de fil à Kev Adams.
Excellente idée, faites ça. Comme ça, moi de mon côté, je vais pouvoir évoquer avec la neutralité qu'on me connaît, liée à mes origines suisses, votre prestation d'hier. Alors évidemment, une matinale c'est d'abord une prestation collective, hein. On gagne ensemble, on perd ensemble, mais il y a toujours une ou deux individualités qui sortent du lot, et parfois du lolo. Oh. Ce matin, j'aimerais saluer la performance étonnante, Dieu sait pourtant que venant de lui peu de choses m'étonnent, de Laurent Cabrol qui a réussi hier cette prouesse de concentrer en une seule phrase, allez voir, trois éléments incompréhensibles que nous allons disséquer un par un. Mais que voici déjà in extenso. Tout partait pourtant, vous allez voir, d'une question assez simple.
Comment est-ce qu'on doit s'habiller ce matin?
Bon, on s'habille, ça dépend. Partez chargé et vous vous déshabillez au fil des heures.
Trois temps donc dans la pensée cabrolienne, comme chez Schopenhauer. Un, le doute, incarné par l'onomatopée bobo. Deux, l'exhortation, quasiment j'ai envie de dire nihiliste, à échapper au caractère déprimant de la grisaille en se réfugiant dans l'alcool.
Ça dépend, partez chargé.
Et enfin, troisième temps de la pensée cabrolienne, la proposition hédoniste visant à inciter nos auditeurs à se foutre à poil.
Et vous déshabillez au fil des heures.
Voilà, c'est certainement là ce que d'aucuns appelaient jadis la pensée complexe. Et justement, c'était tout l'objet de votre interview, Nikos, de 7h45 hier. Qu'Alain Minc, célèbre visiteur du soir de l'Elysée, vous livre en exclusivité quelques infos sur ce qu'Emmanuel Macron comptait dire dans son fameux discours du soir.
Dans 15 minutes, je reçois Alain Minc. Que peut annoncer Emmanuel Macron ce soir ? Réponse tout à l'heure.
Le suspense était à son comble, l'attente immense, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été déçue. Vous avez cuisiné Alain Minc, il a tout déballé.
Ou presque. Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Le président de la République s'exprimera ce soir à 20h. Peut-il changer la donne ?
Si vous me permettez de m'emparer de votre émission pour ne pas répondre à votre question.
Qu'avez-vous dit la dernière fois que vous avez parlé au président de la République ?
Ça, je vous le dirai pas.
Oh de caramba !
M'a servi.
Il fallait attendre le 20h finalement. Bon, ce n'est pas plus mal. Vous avez vu, Nikos, que je vous ai fait un petit cadeau.
Oui, mais ça venait de vous.
Alors, ça n'est pas de moi qui suis une ordure, comme vous le savez, mais de ma sœur, qui est une personne charmante, qui vous adore et qui m'a envoyé deux pastis. C'est un gâteau du Sud-Ouest,
gentil.
Elle vit dans le Sud-Ouest. Et elle m'a envoyé un pastis pour moi et un pastis pour vous. Un pastis qui est un gâteau, je le rappelle.
Comment s'appelle votre sœur ?
Laurence.
Ma chère Laurence, un grand merci au nom de toute la rédaction que je ne partagerai pas. Donc, et surtout, je suis désolé pour votre frère, ma chère Laurence.
Et la prochaine fois, Laurence, pensez à mon pastis à moi.
Bonne vanne, Laurent Cabrol.